Donc la semaine passée, nous avons terminé le chapitre 7 de l'évangile de Jean. Jésus se trouve à ce moment-là du récit à Jérusalem et à tous les jours, il va au temple et il enseigne. Il enseigne la bonne nouvelle de la vie éternelle. Il y a une partie de la foule qui est touchée et qui voit en lui le prophète attendu ou d'autres, le Christ. Mais une partie de la foule, principalement les chefs religieux, les pharisiens, scribes et autres, et ils restent incrédules et même ils veulent sa peau. Jésus est trop populaire, il est un obstacle à enlever. Mais ils n'arrivent pas à l'arrêter et même ils envoient les huissiers, les gardes du temple pour le saisir. Puis eux-mêmes ne l'arrêtent pas quand ils l'entendent parler. Ils se disent « Wow, jamais aucun homme n'a parlé comme lui ». Et ils s'en retournent les mains vides. Ils sont frappés par son message. Aujourd'hui, on étudie le début du chapitre 8. 11 versets. J'invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean ou sur vos téléphones. Chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit à nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils la placèrent au milieu et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et il se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamnée? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais et ne pêche plus. » Amen. On va aborder quelques points, des sujets précis dans ce passage, mais le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de l'authenticité de ce passage-là, qui est remise en question. Peut-être que même dans vos Bibles, le passage est mis entre crochets, de parenthèses. Plusieurs versions de la Bible ont une note pour dire « Oh, attention, ce texte-là est douteux ». En fait, si vous étudiez les commentaires bibliques, vous allez voir que la plupart des théologiens arrivent à la conclusion que ce passage-là, les 11 premiers versets, ne faisaient pas partie du manuscrit que l'apôtre Jean a écrit, du texte original en grec de l'apôtre Jean. Il y a plusieurs indices qui poussent à conclure cela. D'abord, que la quasi-totalité des plus anciens manuscrits qu'on a. Aujourd'hui, on a entre les mains des milliers de manuscrits du Nouveau Testament, mais les plus anciens ne concernent pas ce passage-là. Aussi, les pères de l'Église, ce sont les chrétiens des premiers siècles qui ont écrit des commentaires ou des théologiens des premiers siècles, qu'on appelle les pères de l'Église. On peut consulter plusieurs de leurs textes aujourd'hui qui ont été traduits. Mais ils ne mentionnent pas ce passage-là. Même ceux qui écrivent des commentaires sur l'Évangile de Jean, ils vont commenter tous les chapitres et ils ne commentent pas ce passage-là, comme s'il leur était inconnu. Il y a des indices dans le passage lui-même aussi. Le style est différent du reste de l'Évangile et le vocabulaire est différent. Il y a plusieurs mots dans ce passage-là que Jean n'utilise jamais ailleurs. Par exemple, le mot « scribe ». Au verset 3, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme. Mais le mot scribe, Jean ne l'utilise jamais, ni dans son évangile, ni dans ses épîtres. Donc, ça fait conclure plusieurs théologiens, et là, je ne parle pas même de théologiens libéraux, mais de théologiens chrétiens évangéliques, que ce texte-là a été ajouté par la suite, qui n'était pas dans le passage, dans le texte original. Mais il existe quand même des arguments en faveur de son authenticité. Il y a un des manuscrits très anciens qui est considéré comme très fiable, qui contient ce passage-là, intégral. Et il y a un grand nombre de manuscrits secondaires aussi qui le contiennent. Donc, ça s'est propagé quand même dans tout le royaume de l'Empire romain, à l'époque où l'Évangile se propageait. Il y a le théologien Jérôme aussi, au IVe siècle, qui a souligné le fait qu'il existait plusieurs manuscrits qui contenaient ce passage-là, et lui, il lui a accordé foi, et il l'a inclus dans la traduction en latin, la Vulgate, qu'il a écrite. Augustin, plus tard, a défendu son authenticité aussi. Augustin lui a dit, je crois qu'il était là à l'origine, mais pourquoi qu'on ne le trouve pas dans beaucoup de manuscrits? Selon lui, c'est parce que des copistes jugeaient qu'il était suspect, puis ils l'ont enlevé. Donc, selon lui, ce n'est pas qu'il a été ajouté plus tard, c'est qu'il a été enlevé plus tard. Parce qu'ici, Jésus semble, à première vue, tolérer le péché. Et dans un monde des débuts de l'Église catholique, c'était pas bien vu de tolérer le péché. Il luttait justement contre une déchéance morale de plus en plus répandue. C'est possible. Et même si plusieurs mots ne font pas partie du vocabulaire habituel de Jean, c'est possible qu'il l'ait écrit lui-même par la suite en utilisant un autre vocabulaire et qu'il l'ait ajouté comme une deuxième version de son manuscrit. Ça peut provenir de Jean lui-même quand même. Il y a un indice fort que ça pourrait provenir de Jean, c'est au verset 6, où c'est Jean lui-même qui rajoute un commentaire dans son texte. Les pharisiens viennent, puis ils tentent Jésus, ils lui posent une question. Est-ce qu'il faut lapider cette femme ou non? Et là, c'est l'auteur, c'est Jean lui-même qui dit, « Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. » Jean fait ça à plusieurs reprises dans son évangile. Il rapporte les paroles de quelqu'un, et par la suite, il rajoute son commentaire entre parenthèses. Il le fait 11 fois. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aucun des autres évangiles ne le fait. Ni Matthieu, ni Marc, ni Luc. Bon, c'est vraiment propre à Jean, ça, de rajouter un commentaire dans le texte pour expliquer une parole qui vient d'être dite. Donc, est-ce que c'est Jean qui l'a écrit ou pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, on aura plus de preuves. Mais, selon moi et selon la plupart des théologiens évangéliques aussi, il n'y a aucune raison de douter que cet événement-là a réellement eu lieu. Donc, est-ce qu'il faisait partie du texte original ou pas? C'est une chose, mais quand on regarde le passage lui-même, il n'y a rien dans ce passage-là qui contredit l'enseignement du Nouveau Testament. Au contraire, c'est même une très belle illustration, une mise en scène de l'enseignement de la bonne nouvelle, de l'Évangile de Christ, de sa grâce, de la gravité du péché, du pardon. Donc, je crois que c'est un texte qui mérite d'être étudié, même en mettant de côté la question de l'authenticité, parce que ça paraît vraiment être une scène réel qui s'est passé dans le ministère de Jésus. Et Dieu a permis que ce passage-là se trouve dans le canon des Écritures. Ça vaut la peine qu'on l'étudie. Donc, comme premier point, j'aimerais qu'on regarde plus attentivement le piège qui a été tendu devant Jésus. Jésus se trouve au temple, il enseigne, il s'assoit, il prend la position habituelle à l'époque des rabbins, des maîtres qui enseignaient, et les foules venaient l'écouter. Et là, le texte nous dit que tout le peuple venait de l'entendre. C'était vraiment devenu le centre d'attraction. Il venait de s'écouler la semaine de la fête des huttes, et là, tout le monde en parlait. Là. C'est même un sujet de débat. Donc là, tout le monde voulait entendre l'enseignement de Jésus. Ils viennent vers lui. Les chefs religieux arrivent aussi, et ils l'interrompent en lui amenant une femme adultère. Elle n'était peut-être pas menottée, là, mais ils l'amènent comme de force, ils la conduisent devant Jésus. Il s'adresse à lui avec le titre respectueux de maître, mais c'est hypocrite de leur part. Et il l'informe que la femme a été prise en train de tromper son mari. Donc, c'est une femme mariée qui a trompé son mari avec un autre homme. Et il lui demande, « Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu? » Lapider, ben, vous savez sûrement ce que ça veut dire. C'est une manière d'exécuter quelqu'un, comme à la chaise électrique ou à la pendaison ou sur la croix. Mais lapider, c'est qu'on lui lance des pierres jusqu'à ce que la personne meure. C'est assez dur. Hein? C'est vrai que dans la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, l'adultère était passible de la peine de mort. On lit dans Deutéronome 22, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. » Et vous ne trouvez pas quelque chose qui cloche un peu dans la scène? Il est où l'homme? Si elle a été prise en flagrant délit d'adultère, pourquoi c'est seulement la femme qui est amenée devant Jésus? L'homme aussi était censé mourir. C'est typique de la moralité à l'époque là, qui était dégradée, puis même si les pharisiens se présentaient comme des gens de la justice, ils étaient injustes. Ils essaient de vouloir punir sévèrement la femme alors que le mari semble... Bien, l'homme semble s'être éclipsé ou ils n'en tiennent pas compte. On voit qu'il y a une grande injustice. Ça, il y a plusieurs indices qui montrent qu'à l'époque de Jésus, même lorsqu'il voulait appliquer la loi de l'Ancien Testament, c'était fait d'une manière injuste. Et c'est les femmes qui en payaient le prix souvent. Les hommes pouvaient avoir la permission de divorcer pour n'importe quel prétexte. Ils répudiaient leur femme, ils en mariaient une autre. La femme se trouvait seule. Ou si son mari mourait, elle était sans moyens, sans propriété. Donc, il y avait une grande injustice à l'égard des femmes. C'est-à-dire que c'était comme deux poids, deux mesures. Ici, en réalité, les chefs religieux qui se présentent devant Jésus avec cette cause-là, là, ils ne se soucient pas de la justice. Ils ne cherchent qu'une raison d'accuser Jésus. C'est un piège qu'ils lui tendent. Mais ce qui est vraiment méchant de leur part, c'est qu'ils utilisent la vie d'une femme là, pour faire ça. Leur tactique ici, elle est astucieuse quand même. On voit qu'ils y ont réfléchi. Même à première vue, le piège lui semble incontournable. C'est le genre de question que, humainement, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Ils étaient sûrs de l'avoir attrapé pour de bon, ce Jésus. Parce que si Jésus répond de ne pas lapider la femme, bien, ils vont l'accuser qu'il enseigne d'enfreindre la loi. Il était supposé d'être un maître spirituel. Il devait conduire le peuple à honorer et obéir à la loi. Donc, s'il voulait épargner cette femme-là, il l'aurait accusé d'être un faux docteur là, qui enseignait d'enfreindre la loi. Si Jésus répondait de la lapider, là, il l'aurait accusé de ne pas être réellement celui qu'il prétendait être, c'est-à-dire celui qui venait apporter la grâce de Dieu, d'être du côté du peuple, d'être du côté des pécheurs pour leur amener la grâce de Dieu, le pardon. Donc, s'il commandait de lapider cette femme, ils allaient l'accuser de ne pas être celui qu'il prétend. Et si Jésus répondait « Je ne sais pas », là, ils allaient l'accuser de ne pas être véritablement un maître et d'avoir dupé la foule. Donc, humainement, il était mal pris. Mais voyons la réponse de Jésus. Comme première réponse, Jésus, qui est assis, se baisse et il écrit par terre. C'est comme s'il ignore leur demande et il se met à écrire par terre. Là, il y a toutes sortes de spéculations au sujet de qu'est-ce qu'il a bien pu écrire. Ça, je pense qu'on ne le saura jamais. Peut-être que le Seigneur Jésus va nous le révéler quand on sera dans sa présence. Mais je crois que ce n'est pas important. Si l'auteur n'a pas voulu nous rapporter, n'a pas jugé bon de nous rapporter ce que Jésus a écrit, c'est secondaire. Mais son geste d'écrire, quand même, semble important. Il le fait deux fois. Il y a peut-être une signification symbolique à ce geste-là. Sans pousser trop loin, mais en étudiant justement ce qu'Augustin en pensait, lui, il voit ici un symbolisme fort avec l'écriture dans l'Ancien Testament du doigt de Dieu. Dieu a écrit une fois avec son doigt sur les tables de la loi. Donc Dieu, le législateur qui a donné sa volonté par Moïse, il a écrit lui-même de son doigt sur les tables de la loi. Et ici, le peuple se trouve en présence du nouveau législateur, celui qui amène la volonté de Dieu, qui n'écrit pas sur la pierre, mais qui écrit par terre. Peut-être en signe qu'il n'écrit pas d'une manière externe à l'homme, mais il veut écrire vraiment comme sur le cœur de l'homme, l'homme qui est de poussière et qui va retourner à la poussière. C'est une signification peut-être que Jésus, à la différence de l'Ancien Testament, vient pour transformer le cœur et permettre un changement qui va produire même du fruit. Jésus utilise souvent l'image d'un arbre qui pousse et qui produit du fruit, donc qui sort du sol même. Il y a peut-être un lien ici. En tout cas, Jésus savait qu'un jour on se poserait la question, qu'on méditerait là-dessus. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que Jésus signifiait par là à ses interlocuteurs là, quelque chose. Il se baisse la tête et il ne répond pas à leurs questions. Donc, sûrement qu'il est venu, en faisant cela, il leur disait, « Ça ne me concerne pas ce que vous me demandez là. Je ne suis pas venu pour être le juge. » Et là, il lui demandait justement d'agir en tant que juge et de donner son verdict, coupable, non coupable, et de déclarer la sentence. Jésus n'était pas venu faire cela. Ça ressemble à la réponse qu'il donne dans Luc 12, quand quelqu'un lui demande « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Là, Jésus répond à cet homme « Qui m'a établi sur vous juge ?» ou pour faire des partages. Et dans le même chapitre, ici au chapitre 8, verset 15, il va dire « Vous, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. » Probablement, Jésus est en train de leur signifier, « Je ne suis pas là pour juger. » Mais ils insistent, parce que là, ils sentent vraiment qu'ils ont accroché le poisson. Il faut que Jésus se prononce. Donc là, Jésus relève la tête, finalement, il se redresse, et il leur dit une phrase qui est devenue très célèbre. Même, je l'entendais au radio il y a 2 semaines, un journaliste qui parlait d'un événement quelconque. Je ne sais pas s'il savait que ça venait de la Bible, mais c'est devenu une phrase très célèbre que même les athées connaissent. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. En tout cas, en français, au Québec, c'est une expression qui est connue de jeter la pierre à quelqu'un. Mais les gens ne savent pas que ça vient de Jésus. Donc, Jésus leur répond ça et c'est vraiment du génie. On peut être étonné face à la grande sagesse de Jésus qui dépasse toute la sagesse de tous les hommes qui ont marché sur cette planète. C'est une démonstration même de Proverbe 26 qui dit Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu lui ressembles toi-même. » Mais qui dit aussi, « Réponds à l'insensé selon sa stupidité, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. » Donc, en donnant cette réponse-là, Jésus approuve la loi. Il ne peut pas être accusé d'être contre la loi. La loi de l'Ancien Testament était parfaite. Et Jésus s'y réfère souvent aux Écritures. Mais il souligne un point capital, c'est que pour condamner une personne, pour prendre la position de juge et condamner une personne, on ne doit pas soi-même être coupable, sinon ça ne fonctionne pas. Là. Donc il leur dit, c'est correct, vous voulez la condamner, mais que celui parmi vous qui est non coupable, bien, la punisse. Donc là, Jésus, en faisant cela, il détourne l'attention qui était sur cette femme et sur lui, pour que l'attention se porte sur chacun d'eux. Chacun est obligé d'évaluer son cœur. « Oh, est-ce que je peux jeter la pierre, moi? » Et même s'ils sont remplis d'hypocrisie, ils font du théâtre, ils se pavanent comme étant de saints hommes, ils sont forcés là, de faire un geste concret de lancer une pierre là, s'ils poussent la prétention de la sainteté jusqu'à ce point-là. Et sous le regard de leurs confrères, de leurs collègues, il n'y a personne qui ose prétendre être parfait. Et même, le texte dit qu'ils sont accusés dans leur conscience. Peut-être même qu'ils ont été saisis de remords, quelques-uns d'entre eux, à ce moment-là. Peut-être même, c'est très probable, vu les mœurs à l'époque, que plusieurs d'entre eux avaient commis eux-mêmes l'adultère. Peut-être que c'est l'un d'entre eux qui avait couché avec cette femme, même, pour la saisir en flagrant délit. Et qui sait? Romains 2, 1 dit, à propos de ceux qui condamnent les autres, « Tu es donc inexcusable. » Qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Donc, ils sont tous partis l'un après l'autre, et les plus âgés en premier. Les plus matures, les plus expérimentés, ceux qui devraient avoir atteint le plus haut niveau de sainteté, ils doivent partir piteux. En réalité, le seul qui était digne de condamner dans cette scène-là, c'est Jésus. C'est le seul qui aurait pu lancer la pierre. C'est le seul qui aurait pu agir en tant que juge. Mais il n'est pas venu faire cela. Et voyons ce qu'il dit à la femme. Jésus lui demande, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Là, il retourne l'attention sur elle. Et elle répond, « Personne, Seigneur. » Et donc, elle ne peut que constater que, grâce à Jésus, elle a été épargnée. Une simple parole de Jésus et elle a eu la vie sauve. Et Jésus ajoute, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Wow, quel grand poids qui est enlevé de ses épaules. quelques minutes auparavant, là, elle sentait la mort là, devant sa face. Là. Sa vie était en jeu, et puis là, le poids est enlevé, un grand soulagement. Et peut-être même qu'elle s'est convertie ce jour-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, le texte ne le précise pas, mais si elle s'est convertie, ça veut dire que si elle a cru en Jésus comme son Seigneur, ça veut dire qu'elle a compris même toute la portée de la phrase de Jésus, « Je ne te condamne pas », ça a un sens très profond et même une portée éternelle. Jésus est en train de lui dire, « Tous tes péchés sont pardonnés. » Celui qui est le seul à pouvoir déclarer, donner un verdict coupable et d'imposer une condamnation, dit à cette femme-là, « Je ne te condamne pas ». C'est l'équivalent de lui dire, « Je te pardonne, tu es pardonné ». Quelqu'un l'a mentionné tantôt, le verset dans Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Si nous sommes en lui, il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que la conséquence du péché n'est pas imposée. La sentence est enlevée. Dans Jean 3, 17, on connaît bien Jean 3, 16. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus continue au verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » À la fin des temps, quand tous paraîtront devant le trône de Dieu, le juste juge, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire le livre de Jésus, ça veut dire qu'ils sont en Christ, mais ils seront épargnés du jugement. Peut-être que nous allons comprendre tout le poids, la gravité de nos péchés, la somme de ce qu'auraient mérité nos fautes. Mais parce que notre nom est dans le livre de Jésus, la condamnation sera enlevée. On sera déclaré non coupable, juste. En fait, on l'est déjà, même si on croit en Jésus. Et tous ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie seront épargnés du jugement et seront admis dans le royaume éternel de Christ, le royaume éternel de Dieu, pour toujours. Mais le passage, dans une petite phrase à la fin, la commande de Jésus, « Va et ne pêche plus », montre que ça ne veut pas dire par là que le péché n'est pas grave. On dit qu'il n'y a plus de condamnation. On ne veut pas dire par là qu'on peut tolérer le péché, que le péché n'est pas grave. Tout péché doit être puni. Et ça, Dieu le répète à répétition, à de nombreuses reprises, dans le Nouveau Testament et aussi. Tout péché doit être puni et Dieu demeure toujours juste dans ses sentences. S'il faisait juste enlever la sentence et faire comme si le péché n'avait jamais eu lieu, il serait injuste. Et même ces anges qui contemplent ses œuvres pourraient dire, « Oh, ce Dieu-là, il est en train de devenir injuste. Qu'est-ce qui se passe? » Dieu est toujours juste et le péché doit être puni. Si la condamnation est enlevée, c'est pas parce que Dieu fait comme si le péché n'avait jamais eu lieu, c'est parce que Jésus l'a payé à notre place. Comme notre frère Timothée nous l'a rappelé tantôt, c'est ce qu'on se rappelle quand on célèbre la table du Seigneur. C'est pas comme si on oublie le fait qu'on a péché. On s'en souvient très bien qu'on a péché. Mais la faute, la peine, la sentence, la condamnation, elle a été portée au compte de Jésus, qui l'a payée à notre place. Donc Dieu est parfaitement juste. Les péchés sont payés. Et Jésus l'a subi, cette punition-là, à la croix. Jésus, le seul digne de condamner les autres, a subi cette condamnation sur lui-même. Si Jésus a pardonné les péchés de cette femme-là, s'il a pu lui dire « Je ne te condamne pas », c'est parce que peu de temps après, il allait s'offrir en sacrifice pour elle, pour tous ceux qui l'ont choisi, pour tous ceux qui allaient croire en lui. Et en réponse à cette grâce-là, Jésus demande à cette femme « Va et ne pêche plus ». Ça montre que même après que la condamnation est enlevée, le péché reste toujours quelque chose de grave. Ce n'est pas banal de pécher. Jésus a enlevé notre condamnation, mais ça ne veut pas dire que maintenant on peut manger et boire sans se soucier de rien. Le péché demeure quelque chose de grave. Et Jésus commande à la femme, je t'ai gracié, maintenant va et ne pêche plus. Et si elle a compris ce jour-là que Jésus est son sauveur et qu'elle a fait aussi de Jésus son Seigneur, qu'elle a joint les rangs de Jésus, elle lui a donné son allégeance, mais par reconnaissance pour sa grâce, par reconnaissance pour lui, elle va changer radicalement de vie. Elle va se repentir. Ses œuvres mauvaises vont être remplacées par des œuvres bonnes. C'est ça la conversion. C'est un demi-tour. Éphésiens 2, 8 à 10 résume bien la grâce, mais aussi l'effet que ça produit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Dieu ne veut pas qu'on s'enfle la tête, là, qu'on se glorifie parce qu'on a réussi à gagner une place au paradis. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est une grâce de Dieu. Car nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous façonne. Nous avons été créés, comme recréés en Christ Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, quand Dieu nous sauve, il nous arrache à un monde de ténèbres où on ne fait que des œuvres qui sont mauvaises, qui sont teintées par le péché. Il nous transporte dans son royaume de lumière où nous pouvons faire des œuvres qui sont bonnes. Les œuvres bonnes peuvent prendre la place des œuvres mauvaises dans nos vies. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on arrive à ne plus pécher, mais si on est sauvé, notre objectif maintenant, c'est de ne plus pécher. On sait qu'on n'atteindra jamais la perfection, mais pourquoi viser plus bas? Jésus nous demande, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Notre objectif, c'est de ne plus pécher. Comme Jean dit dans son épître, dans 1 Jean, si je paraphrase en québécois, un chrétien, ça ne pêche plus. Bon, c'est sûr qu'on va encore tomber, mais ça ne devrait pas nous caractériser. Un chrétien, ça ne pêche pas. On devrait se rentrer ça dans la tête. Je suis chrétien, je ne pêche plus. C'est notre objectif de vie. En tout cas, c'est l'objectif ultime de plaire à notre Seigneur qui nous a sauvés. Et c'est par reconnaissance à sa grâce. Donc, ce qui ressort en premier de ce passage-là, c'est la grâce de Jésus. Que certains ont mal compris, ils ont pensé que c'était de la tolérance. Jésus ne tolère pas le péché, là. C'est grave pour lui, mais il a pu pardonner à cette femme parce qu'il allait payer le prix, il a payé à sa place. Mais il lui a fait grâce. Il lui a pardonné. Et mes frères, ce texte-là nous invite à faire de même. Jésus est notre modèle, à faire grâce à nos frères et sœurs, à pardonner. Même quand un frère ou une sœur se repent, mais à répétition, même on est presque sûr qu'il va retomber encore dans le même péché. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? De pardonner combien de fois? 70 fois 7 fois. Ça fait pas mal. Si notre frère se repent, notre sœur se repent, on pardonne. Même des fautes qu'on considérait comme impardonnables. Et c'est une invitation aussi à ne pas juger nos frères de manière à les condamner, à tirer des conclusions. Ah, il n'est pas sauvé. Ouais, il n'est pas sauvé. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Ou d'aller pour faire un reproche à un frère en jugeant son comportement, mais dans le but de le rabaisser, de montrer à quel point il est mauvais. Ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus est caractérisé par la douceur, la bienveillance. Et l'objectif, lorsque on juge un frère, ça ne doit pas être de condamner, mais d'aider, de gagner, de sauver le frère. Pour ça, ça demande nous-mêmes de changer d'attitude, parce que ce n'est pas naturel de penser comme ça. Donc, le premier sur qui devrait porter notre jugement, c'est nous-mêmes. Jésus nous dit, regarde dans ton œil, là. Tu vas voir qu'il y a une grosse poutre, là. Puis toi, tu essaies d'enlever la petite paille dans l'œil de ton frère. Commence par enlever la grosse poutre. Et si on passe notre temps, si on passe suffisamment de temps pour regarder nos propres vies, juger de nos actions, de nos intentions, de nos motivations, secrètes même, ça va occuper notre horaire suffisamment. On va manquer de temps pour juger nos frères et sœurs. Mais on va s'améliorer aussi. Et notre caractère va changer et on va finir par ressembler à Jésus. Donc, lorsqu'on va aller voir un frère ou une sœur pour mettre le doigt sur un bobo, sur un péché dans sa vie, ça va être par amour, pour gagner le frère. Parce que le péché est sournois, c'est dangereux. Et on ne doit pas le tolérer. C'est pour ça que Jésus dit à la femme, « Va et ne pêche plus. » Et c'est une caractéristique de l'Église aussi qu'on veille non seulement sur soi-même, mais sur toute l'Assemblée. Et une saine discipline dans l'Église, c'est requis par le Seigneur. Donc, le même Seigneur Jésus, qui a fait grâce, nous commande dans Matthieu 18, « Si ton frère a péché, va, reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, alors qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. » Un chrétien qui s'enfonce dans le péché et qui refuse de s'en sortir, de se repentir, et qui s'entête, finalement montre qu'il n'est pas digne d'être appelé chrétien. Il ne peut plus prétendre être un chrétien. Un chrétien est caractérisé par l'humilité et la repentance, la reconsécration. Notons ici que Jésus ne nous demande pas de condamner. On ne sait pas si le frère ou la sœur est sauvé ou pas. C'est dans les mains du Seigneur. Il ne peut plus bénéficier de la communion fraternelle et prendre la table avec nous. Et notons aussi que ce n'est pas parce que le frère ou la sœur a péché qu'il est excommunié. Parce que nous avons tous péché, nous serions tous excommuniés. C'est s'il s'entête à ne pas vouloir se repentir qu'il est excommunié. Mais aussitôt qu'il se repent, nous devons être prompts à faire grâce et à pardonner. Donc, rappelons-nous que le péché est grave. Ne soyons pas ingrats face à la grâce du Seigneur. Luttons contre le péché. Ne cherchons pas d'excuses. Le Saint-Esprit nous rappelle ce matin, allez et ne péchez plus. Je vais terminer par un passage dans 2 Pierre 3 qui dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche, sans défaut, dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Il dit plus loin, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. » Amen.